Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?»« Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, « À Bethléem, en Judée. » Car voici ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les clans des chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya vers Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le pape Léon XIV, dans la nuit de Noël, le 24 décembre, disait que Noël, je le cite, est une fête de la foi, car Dieu devient homme, naissant de la Vierge. Il ajoutait, c'est la fête de la charité, car le don du Fils rédempteur se réalise dans le dévouement fraternel. Et il ajoutait encore, c'est aussi la fête de l'espérance, car l'enfant Jésus l'allume en nous, faisant de nous des messagers de paix. Donc il soulignait combien Noël est en rapport avec les trois vertus théologales. Et nous allons peut-être méditer ce mystère de l'Épiphanie précisément avec ce chiffre 3, puisque vous le savez, cette fête, traditionnellement, au niveau de la liturgie, se trouve à l'intérieur d'un petit cycle, si l'on peut dire, une triple épiphanie où il y a précisément cette fête de la visite des mages à Bethléem, mais aussi la fête du baptême du Seigneur que nous célébrerons dimanche prochain. Et également, on y a ajouté le premier miracle que Jésus a accompli à Cana et que nous lisons au cours de l'année C, je crois, et qui est remplacé par d'autres évangiles de même nature en le deuxième dimanche du temps ordinaire. Donc on voit comment Jésus est vraiment annoncé, se révèle par des signes, se montre comme l'époux de l'Église, et c'est le développement, en quelque sorte, de la liturgie, de la fête de Noël, une sorte de cycle, certains liturgistes l'ont souligné, une sorte de cycle de 40 jours, dont l'aboutissement est la fête de la présentation le 2 février. Et il y a évidemment une note mariale évidente dans ce cycle de célébration. Chiffre 3 encore, les trois rois mages évidemment, qui sont sans doute des sages, des savants astrologues venus d'Orient, des étrangers, des païens. On a voulu en faire des rois, mais c'est une sorte d'harmonisation de la tradition avec la question posée, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? La naissance d'un roi prend les allures d'un rival inquiétant pour le roi Hérode, dont on sait que c'était plutôt, excusez du terme, une crapule, et accompagné d'une cour importante, tout Jérusalem, nous dit Matthieu, tous les grands prêtres et les scribes de son peuple. Donc il y a une sorte d'alliance entre le pouvoir romain et le pouvoir religieux qui est malsaine. Alors quel roi, où est-il ce roi caché ? Le roi espéré, le roi attendu ou le roi meurtrier qui s'offre à nos regards aussi ? Ou Jésus qui répondra à Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Chiffre 3 encore, on peut, en regardant le texte de Matthieu, trouver qu'il est que de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament s'y trouvent contenues comme en filigrane. Évidemment, il y a, vous l'avez entendu, la citation du livre de Michée, « Tu es la plus petite parmi les places de gouvernement de Juda », et qui est transformée par Matthieu avec une surenchère valorisante. « Tu n'es nullement la plus petite », écrit Matthieu, alors que la prophétie disait « Tu es la plus petite parmi les chefs-lieux de Judée ». Et Matthieu écrit « Tu n'es nullement la plus petite », en sous-entendu, évidemment, dans la mesure où il naît le Messie. Et Matthieu annonce le retournement que Jésus opère avec ces mots « plus petits » qui reviennent, dans l'enseignement de Jésus. Autrement dit, le plus petit n'est nullement le plus petit. Une seconde prophétie, ce sont les mages qui disent « Nous avons vu une étoile à son lever ». Et il y a comme un écho à la prophétie du prophète, du devin païen Balaam, qui dans le livre des Nombres, au chapitre 24, avait donné cet oracle « Je vois, mais pas pour maintenant, j'aperçois, mais pas de près, une étoile se lève, issue de Jacob, un homme surgit d'Israël. » C'est étonnant, c'est l'une des plus belles prophéties messianique de l'Ancien Testament. Donc l'étoile fait résonance avec cette annonce. Et puis une troisième disséminée, car évidemment le passage des mages par Jérusalem prend une profondeur particulière si on écoute résonner l'oracle qu'on a entendu en première lecture, un oracle jubilatoire, décrivant un triomphal retour d'exil et l'hommage adressé par les rois des nations à Jérusalem. On pourrait citer aussi le psaume 71 qui célèbre le roi juste qui gouvernera Israël selon l'espérance messianique. Tous les rois se prosterneront devant lui. On lui donnera l'or de Saba. Psaume 71, versets 10, 11 et 15. Et puis, vous savez bien, ces trois offrandes, le chiffre 3 encore, l'or, l'encens et la myrrhe. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la première lecture, on nous parle de l'or et de l'encens, mais pas de la myrrhe. Et la myrrhe a été ici soulignée particulièrement en écho, évidemment, à l'annonce de la croix, puisque c'était un parfum d'embaumement pour les sépultures. Donc, c'est un symbole annonciateur de la passion, de la mort et de la croix, de la mise au tombeau du Christ, insistant plus sur son humanité, alors que les deux autres, l'or et l'encens, l'or symbolise depuis l'Antiquité la puissance, le règne, la dignité royale, et puis l'encens, c'est le symbole de la prière qui monte vers Dieu, donc de l'adoration et du culte, que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Entre parenthèses, comment encenser nous-mêmes, tous les jours, notre Dieu, par notre prière, n'est-ce pas ? Terminons par aussi trois personnes qui s'offrent à notre regard, à notre contemplation. Jésus dans les bras de Marie, c'est intéressant. Jésus dans les bras de Marie devant qui nous nous prosternons dans un geste d'adoration. Il ne faut pas confondre l'adoration et la vénération, ce n'est pas la même chose. L'adoration ne s'adresse qu'à Dieu seul. Marie qui présente l'enfant Dieu, nous la vénérons comme mère de Dieu. Et puis, il y a un absent, c'est Joseph. Absent volontaire peut-être, on ne sait pas. En tout cas, cela nous oriente vers la conception virginale de Jésus aussi. Et puis, cela nous oriente vers son service très discret, très silencieux, très caché. Alors, respectons le silence de cette scène qui porte à la contemplation, qui en même temps est un beau récit qui peut être utilisé avec pédagogie dans la catéchèse des enfants, et puis qui, à la suite de la fête de Noël, qui insistait plus sur le don que Dieu fait de lui-même, ici insiste plus sur l'attitude que nous avons, que nous devons manifester vis-à-vis de ce don que Dieu nous fait, une attitude d'adoration, d'émerveillement, de contemplation, d'offrande de nous-mêmes en ouvrant nos propres coffrets, nos propres cœurs au Seigneur.